Conférence privée par le Père Philippe à Saint-Joseph le 24 décembre 1986.
Ces deux traités et comment nous pouvons de la maternité divine de Marie et du corps du tout petit enfant Jésus, le corps de notre Dieu. Pourquoi Dieu a-t-il voulu que son chef-d'œuvre, comme créateur, dans sa sagesse, soit l'homme, et de temps en temps doit se poser la question, comment notre ange gardien nous regarde-t-il ? C'est curieux pour un ange encore. C'est très curieux, parce que l'ange n'a pas la sagesse de Dieu. Donc ils sont toujours un peu dans l'étonnement. Faut pas oublier que ça a été la tentation terrible. Ça a été l'épreuve pour les anges. Le corps de l'homme a été l'épreuve. Je crois qu'on peut dire que c'est le corps de l'homme qui a été l'épreuve. C'est pas l'univers. L'univers, ça lui est bien égal. L'univers matériel, c'est tout à fait égal. Ce qui n'est pas égal du tout, c'est que le corps de l'homme soit habité par l'esprit. Parce qu'il sait ce que c'est que l'esprit. Et c'était la tentation, l'épreuve. Et je crois que le démon a dit non. Lucifer, il est devenu le démon. Parce qu'il n'a pas accepté le corps. Et de fait, c'est perpétuellement la tentation. Parce que le venin du serpent y est passé dans le cœur de notre mère, de notre grand-mère, Ève. Quand on contemple la nativité, on ne peut pas ne pas penser à Ève. Mais on rêve à une crèche qui pourrait rassembler tout ça. Il y a Marie à Ève derrière, c'est bien évident. En plus petit, ça ne peut pas se représenter, c'est une icône extraordinaire. Le premier enfant des hommes, Cain. Il est là derrière, le petit Jésus. On ne le montre pas, heureusement. Mais il est quand même là, c'est le premier fils de l'homme. Quand Ève a dit à la naissance de Cain, j'ai enfanté un fils de par Yahvé. Et il n'y a que Marie qui peut dire ça, en toute vérité. Parce qu'elle a dit entre parenthèses Adam. C'est très maternel, ça. Hein, c'est la mère qui ne voit que son fils, puis elle laisse l'homme derrière. Alors, on pourrait interpréter ça d'une manière freudienne, de façon étonnante. Hein. J'ai enfanté un fils de Yahvé. Et c'est vrai. Tout. Je repensais ces jours-ci à cause de ce traité de saint Thomas pour essayer de comprendre comment on doit reprendre ce traité de saint Thomas. Parce que c'est imbuvable ce traité de saint Thomas pour notre monde d'aujourd'hui. Ils ont supporté ça, Raymond, parce qu'ils aiment saint Thomas, mais c'est pas commode. Hein. On sent bien. Il y avait deux. J'avais pas deux scouts qui sont arrivés parachutés là. Alors après, les deux coups me disent mais secours, qu'est-ce que ça veut dire ça? Je comprends. Mais je ne l'ai pas fait pour vous. Si j'avais fait ça pour des scouts, je n'aurais pas pris saint Thomas et puis regardé le traité de la conception du Christ. C'est vrai, c'est imbuvable dans notre monde d'aujourd'hui. C'est là où on voit combien saint Thomas est uniquement et peut-être uniquement gardé comme par des contemplatifs. C'est extraordinairement frappant, ça. Et plus j'avance, plus je vois que saint Thomas ne peut pas être vulgarisé. C'est un grand secret que Marie doit aimer beaucoup. Mais c'est vrai que c'est pas quelque chose de trop, j'allais dire à la fois trop simple, la naïveté d'un saint Thomas prodigieux, saint Thomas contemplant la crèche, C'est le troisième personnage, hein. Saint Thomas contemplant la crèche. Pour nous, quand même. Hein. À côté de Marie, il y a Saint Thomas. Et qui regarde le tout petit enfant Jésus. Albert le Grand. As-tu regardé le petit enfant Jésus? Avec une espèce de d'avidité. Et quand il regardait les petits corbeaux dans leur petit nid, et quand il regarde l'enfant Jésus, c'est Albert le Grand, ce grand savant, un biologiste d'aujourd'hui, chrétien, qui connaît, du moins qui croit connaître, ce que c'est que le fœtus, ce que c'est que le tout petit, dès le point de départ, et qui regarde la crèche. C'est extraordinaire de voir que Dieu a créé tout l'univers pour la conception du Verbe. Devient chair. Le Egeneto Sax, il est devenu chair. Dieu. Alors pourquoi ça? Je crois qu'il faut que nous essayions, vous voyez, d'élargir, mais divinement, pas du tout dans un sens journalistique, mais dans un sens divin, d'élargir notre regard. Parce que la crèche, spontanément, hein, nous la regardons avec beaucoup de dévotion. Il faut garder cette dévotion. C'est vrai, la dévotion, qu'on a depuis tout le temps, que vous avez partie du patrimoine chrétien, la première crèche dont vous avez eu conscience en famille. Ça dépend si vous étiez du nord ou du midi, c'est pas tout à fait la même chose, parce que les moutons ont plus froid dans le nord, alors ils ont plus de laine. Dans le midi, c'est différent. Mais c'est vrai que la crèche fait partie de tout un patrimoine chrétien très étonnant de dévotion, de grande dévotion, du reste, dévotion qu'il faut garder. Mais il faut que cette dévotion s'élargit dans un regard contemplatif. Le regard de Marie. Plein de dévotion. La petite mère. Plein de dévotion vis-à-vis de son tout petit enfant. Et en même temps, la contemplative. Qui découvre là toute la signification de notre faute, elle est mère. Et dans sa maternité, elle retrouve sa noblesse. Elle n'est pas très noble quand elle parle aux démons. Parce qu'elle se laisse séduire. Être séduit par le démon, c'est oublier sa noblesse. Sa noblesse de chef-d'œuvre de Dieu. C'est loucher. C'est jamais beau. À la place d'être la petite enfant bien-aimée du Père, la petite dernière parmi toutes les créatures, c'est pas commode d'être la petite dernière parmi toutes les créatures, la Benjamine parmi toutes les créatures, tous les anges, les myriades d'anges qui regardaient. Elle devait en avoir un peu conscience, parce que la grâce de justice originelle lui donnait une très grande lumière. D'être la petite Benjamine, aimée tendrement de Dieu, et qu'après avoir créé Ève, Dieu s'est reposé. Ce repos de Dieu, du Créateur, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Dieu s'est reposé. Repos de Dieu après avoir créé Ève. Pas la création d'Adam, mais Ève. Et première action d'Ève, la première initiative qui nous est dite. J'espère que c'est pas la première, mais selon la révélation, c'est la première qui nous est révélée. Hein. Les conversations d'Ève et d'Adam. Il ne nous est rien dit. La prière d'Ève avec Adam, il ne nous est rien dit. La première prière familiale, de ce coup, ça ne nous est pas dit. L'intimité d'Ève et d'Adam, ça ne nous est pas dit. Je crois que ça existait, mais ça ne nous est pas dit. C'est un secret. Ça ne nous regarde pas. La première chose, c'est l'attention d'Ève à l'égard du serpent. Elle est attentive au serpent, alors qu'elle n'aurait pas dû l'être. Elle a louché. Ève était faite pour être attentive à Dieu et à Adam. Elle était faite pour ça. Alors, elle est attentive au serpent, et on sait très bien la chute terrible dans l'orgueil. L'imaginaire s'empare de son intelligence. Cette première folie, c'est la première folie. Vierge sage, vierge folle, selon la distinction qui est dans la nouvelle alliance. Il y a des vierges sages et des vierges folles. Et la Vierge folle, on sait bien ce que c'est. Elle n'a pas assez d'huile pour attendre l'époux. C'est la Vierge folle. Et Ève, c'est la première Vierge folle. C'est le prototype de la Vierge folle. Elle n'a pas assez d'huile pour être dans la patience d'écouter Dieu. Dans la foi. Pas beaucoup de patience pour écouter Dieu dans la foi. Parce que c'est pas toujours drôle. La foi réclame une patience énorme. On écoute Dieu sans rien voir. Et puis la patience pour écouter Adam. Ce qui n'est pas très drôle non plus. L'autorité. Adam, c'est l'autorité. Il y avait les deux en Adam. Il y avait l'époux, mais l'autorité. Et je présume qu'il y a dû y avoir là quelque chose qui fait que subitement, je ne dis pas qu'elle n'a pas péché d'abord là, mais elle n'a pas eu assez de patience. Qu'elle a écouté alors. Le serpent est toujours impatient. Ça, c'est la grande séduction. L'impatience d'élèves qui écoute et puis qui se laisse prendre. Vous serez comme des dieux. Elle savait bien qu'elle serait comme des dieux, mais dans l'obéissance et donc dans l'impatience. Mais ça m'a toujours beaucoup frappé que dans l'Apocalypse, on ne cesse de parler de la patience des saints et donc de l'impatience des fous et des folles. L'impatience de la Vierge folle. Elle se précipite. Quelque chose de nouveau. C'est toujours ça, l'humanité se précipitant avec quelque chose de nouveau. Vous voyez, toutes les propagandes, la masse média, c'est toujours quelque chose de nouveau. L'impatience, on se précipite là-dessus. Et Ève représente l'humanité. Elle est Ève, la mère des hommes. C'est quelque chose. Et alors, après la faute, chassée du paradis terrestre, c'est sûr. Ça, c'est la conséquence. Elle a perdu sa dignité. Et elle la retrouve quand elle est mère. J'ai enfanté un fils de Pariavé. Ah, ça, c'est grand. La noblesse d'Ève se retrouve dans sa maternité. J'ai enfanté un fils de Pariavé. Et on assiste là à cette coopération, à cette alliance extraordinaire. De Dieu avec l'humanité dans la formation du corps du petit Cain. Il était charmant quand il était petit. Je suis persuadé, il devait ressembler à sa mère, il devait être merveilleux, vous savez. Le petit Cain, il est très aimé de sa mère et très aimé de son père. Et le petit Cain, il était habitué d'adorer Dieu. Mais il y a eu subitement, parce que en lui il y avait les conséquences du péché originel, il y a eu subitement en lui une terrible tentation. Quand son petit frère, qui devait être encore plus charmant. Ça, Abel, il devait être extraordinaire, Abel. Il n'était pas fait pour vivre longtemps. Vous savez, quelquefois, on voit des gens comme ça. Ils sont tellement beaux. Ils ne sont pas faits pour vivre longtemps. C'est impossible. Des voleurs du paradis, comment dire. Une gentillesse telle que c'est pas fait pour le monde. Ils ne sont pas faits pour la lutte. Abel n'était pas fait pour la lutte. Il était fait pour adorer Dieu. Mais comme il n'y avait pas encore de cloître à ce moment-là, il était nécessairement tout proche de Cain. Il a été la proie de Cain. Abel a été la proie de Cain. Vous voyez, le corps de l'homme, le corps du tout petit enfant, c'est ça qui me semble très étonnant. Parce que c'est quand même ça qu'on doit regarder en premier lieu. C'est que de fait, Cain, Adam et Ève n'ont pas été dans un état de petitesse d'enfant. Sûrement pas selon l'écriture. Laissez ça aux évolutionnistes qui croient que Adam et Ève ont été comme des tout petits. Je ne sais pas de quel animal, mais d'un animal supérieur. Et ils ont été tout petits comme nous. Alors, ce qui devient quelque chose d'impossible, d'impensable, c'est comment ont-ils été élevés? Ils n'étaient pas très, très évolués. Dans un regard chrétien, il est net qu'Adam et Ève n'ont pas connu la petitesse de l'enfant. Parce qu'ils n'avaient comme père que Dieu. Ça, c'est le regard comment ça s'est fait, je n'en sais rien. Mais c'est le regard que nous donne l'Écriture et que nous donne toute la tradition chrétienne. Ce n'est que depuis la théorie de l'évolution qu'on a dit, mais non, c'est impossible. Mais cette théorie d'évolution est encore plus difficile à accepter quand on regarde Adam et Ève. Il lui reste impossible scientifiquement de l'expliquer. Absolument. Que simultanément, parallèlement, l'évolution est conduite à Adam, puis à Ève. Ça s'explique pas. C'est du reste toujours là où il faut les coincer. Parce que c'est quelque chose qui est impensable. Et puis, le langage. Bon, je laisse tomber ça. Ce qui est sûr, selon l'Écriture, c'est le premier tout petit enfant. C'est qu'un. Et quand je dis le premier tout petit enfant, c'est très très beau de voir ça, c'est que Dieu a voulu qu'il y ait cette coopération. Et c'est peut-être pour ça qu'il a voulu le corps. Cette coopération de la créature et du créateur, ça n'existe pas chez les anges. Et ça ne peut pas exister chez les anges. La coopération, or c'est très important la coopération. Tout le monde sait en bonne philosophie que la coopération fonde le bien commun. Que la coopération fonde la communauté. Une communauté n'existe que dans la mesure où il y a une coopération. Quand il y a une coopération entre le chantre et le cœur dans la liturgie, il y a une liturgie. S'il n'y a que le chantre qui chante, et que les autres se taisent. Il n'y a pas de coopération. Tout le monde le sait. Alors, il y a un soliste. Il n'y a pas de bien commun. Il n'y a pas de liturgie. La liturgie, c'est la coopération. La coopération première que Dieu a voulu. C'est ça qui me semble si important. C'est la formation du corps de l'homme. C'est la coopération d'Ève et de Dieu. Et c'est pour ça qu'Ève est dans cette espèce d'admiration. Oh, admirabile commercium. Cette admirable coopération de Ève avec son Créateur pour la formation du corps du petit câlin. Pour la formation du corps du premier homme, le premier qui a connu la petitesse de l'embryon, le premier qui a connu la petitesse du premier moment de la conception, c'est qu'un. Et là, il y a une coopération de Dieu et de l'homme. Alors, est-ce que ça ne me fait pas comprendre quelque chose de très extraordinaire? Une coopération substantielle, je dis bien substantielle, elle est matérielle, mais elle est substantielle, donc elle est fondamentale. La coopération fondamentale de Dieu et de l'homme, c'est la formation du corps. Du corps du petit cœur. Et c'est la femme, Ève, la mère. Parce que la grandeur de la femme, c'est d'être mère. Je regarde, premier regard de la création, comprenez bien. S'il n'y avait pas eu le péché, toutes les femmes dignes de ce nom auraient été mères. Ça, c'est sûr. C'est d'être mère. D'être le lieu de la formation du corps de l'homme. C'est là où s'opère la coopération de la petite créature, de la plus petite créature, la petite dernière. C'est pour ça qu'elle est créée en dernier lieu. c'est le lieu du repos de Dieu. Dieu s'est reposé après la création. Et Dieu s'est reposé parce qu'il a laissé l'initiative. On se repose, vous savez, quand on laisse les initiatives aux autres, on se repose. Ça, c'est sûr. Ce qui est fatigant, c'est de prendre des initiatives. Comme créateur, tu as pris des initiatives. Il a pris l'initiative de créer les anges. Il a pris l'initiative de créer cet univers. Il a pris l'initiative de créer Adam et Ève. Quand il s'agit de Cain, l'initiative, c'est Adam et Ève. Dieu les a laissés passer, même après leur faute. Malgré leur faute, Dieu leur laisse cette initiative. Ils ont pris l'initiative. C'est pour ça qu'il y a eu le repos de Dieu. Il s'est reposé quant à son initiative. Il a coopéré. Il a coopéré. Malgré le péché. Vous voyez, je pense toujours au reniement de Pierre.
Ils n'ont rien compris
à la dignité du... partir de rien. Pour ça que Mallarmé, le poète, dit qu'on ne crée que quand on fait à partir de rien. Et donc il faut, en tant que créateur, poète, supprimer tout ce qui est avant. Il le dit, hein, c'est extraordinaire ça. Il n'y a pas que lui qui le dit, je me souviens. Claudel, hein, puisque Claudel, poète chrétien, Claudel, quand on lui demandait, est-ce que vous avez subi certaines influences? J'ai entendu ça à Fribourg. Parce que comme il était, le cardinal Journet l'aimait beaucoup. Il venait de temps en temps voir le cardinal Journet, avant qu'il soit cardinal. Est-ce que vous avez subi quelles influences? Alors il fallait entendre Claudel. À ce moment-là, dire aucune. Autrement, je ne serais pas poète. La définition du poète, c'est celui qui n'a subi aucune influence. Alors il peut être ex nihilo. C'est très très curieux, ça. C'est ça le créateur. Hein. Ex nihilo. Le père, non. Il communique la vie. En tant que créateur, il accepte le concours de sa petite créature. Il accepte de cohabiter avec la mère. C'est inouï, ça. Pour former le corps de l'homme. Je crois qu'il ça, parce que c'est là où on touche la tendresse du Père pour l'humanité. La tendresse de Dieu, c'est peut-être pour ça qu'il a créé le corps de l'homme et qu'il a voulu qu'il soit dans cet état de petitesse, parce que le corps de l'homme, notre corps, a connu cet état de petitesse du premier moment de la conception. Il a connu cette petitesse de l'embryon. Il a connu cette petitesse d'un petit enfant qui vient de naître. Il a connu cette petitesse-là. Un enfant qui vient de naître, il est encore tout chiffonné. Puis il se détend petit à petit. Il est tout chiffonné. C'est vrai. Il a vécu des catacombes pendant 9 mois. Alors il a de la peine d'être à l'air libre. Il a connu ça. C'est merveilleux, la tendresse de Dieu, du Père, à l'égard du corps de l'homme. Pourquoi Dieu a-t-il voulu cela comme créateur? Pour être plus Père. Je crois que c'est ça. J'allais presque dire, Dieu est plus créateur pour les anges et plus Père pour les hommes. Parce que, justement, il y a cette coopération grâce au corps. Si nous étions de purs esprits, Dieu ne pourrait pas coopérer comme ça. Parce que, unissant l'esprit au corps, Dieu peut permettre à l'homme et à la femme d'être source de vie. Source de vie, mais fondamentalement. Pas seulement source de vie. Pour qu'il y ait des cheveux qui poussent. Parce qu'on est source de vie quand les cheveux poussent. C'est pour ça qu'on les tombe de temps en temps pour bien voir que ça repousse. Et on est source de vie. Et le jour où vos cheveux ne repoussent pas, vous dites, hein, ça ne va plus. On est source de vie. C'est vrai, c'est la vie qui s'exprime. C'est le printemps qui pousse. Mais source de vie radicale, parce que quand les cheveux poussent, c'est accidentel. On ne se glorifie pas d'être source de vie de ces cheveux qui poussent, à moins d'être pas très élevé, n'est-ce pas, et de pleurer parce que les cheveux ne repoussent plus. Non. Mais on est source de vie quand même. On est source de vie à travers tout, on est source de vie à travers tout notre corps qui se renouvelle tout le temps, puisqu'il se renouvelle totalement un certain nombre d'années. source de vie radicalement pour un autre être. C'est pour être père. Être créateur et père. Et permettre que sa paternité soit communiquée. Vous voyez, le créateur ne peut pas se servir d'instrument. Et le père peut. Ça, c'est le grand mystère. Source de vie que dans l'amour. Et donc, L'homme va avoir une autonomie plus grande dans l'ordre de l'intelligence et dans l'ordre de l'amour. Voyez, j'allais presque dire, grâce au corps, il y a comme un recul par rapport à la dépendance vis-à-vis de Dieu. Et donc, il y a une autonomie plus grande, jusque dans l'intelligence. L'homme va coopérer avec Dieu dans l'ordre de la connaissance intellectuelle. Quand le philosophe Aristote parle de l'intellect agent, il souligne du corps, il faut qu'il y ait en nous une source de lumière pour éclairer nos imaginations, nos fantasmes, et pour que ce soit à partir de nous, à partir de notre intelligence, qu'il y ait la forme intelligente, la forme intentionnelle, qu'il y ait le concept, concevoir. Nous retrouvons la conception. Saint Thomas fait le lien, donc je peux très bien le faire. À cause du corps, la mère conçoit. À cause du corps, l'intelligence conçoit. Du corps, l'homme peut choisir dans l'ordre de l'amour et se donner substantiellement. Aimer substantiellement. Voyez les trois aspects successifs qui font comprendre la grandeur du corps dans la lumière de la sagesse de Dieu. Les deux conceptions et le don d'amour. À cause du corps, Dieu peut être père comme créateur. J'allais dire plus profondément père, parce qu'il est déjà père pour les anges, c'est sûr, mais plus profondément père, c'est-à-dire s'effacer devant sa petite créature. Parce que c'est ça le père. Le père, c'est celui qui s'efface devant son enfant. Parce qu'il est au service. Il est père, donc il est serviteur. Il laisse passer devant l'autre. Parce qu'il est en admiration devant son enfant. Un vrai père est toujours en admiration devant son enfant. Alors il faut que les enfants soient dignes d'admiration pour que le père soit vraiment père. Le père, c'est pas celui premièrement qui corrige, c'est celui qui d'abord se tait devant l'admiration. Regardez ce petit, c'est mon fils. Et il est admirable, il me dépasse. C'est ça l'admiration du père. Alors voyez, la paternité d'être semblable à nous. Choisir l'ami. Dans les anges, il n'y a pas d'amitié. Ce qu'il n'y a pas le corps. Les anges, ce sont des adorateurs. Ou est-ce que ce n'est pas parfaitement vrai ?